Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Élisée Mpatine depuis Boïkan au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sy à Lorient en France. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc on va essayer de retrouver Thierry Kamboundi, notre correspondant à Kinshasa qui est quelque part ici à Washington. En attendant, les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions sont connus sous réserve du dénouement de l'affaire Zamalek Génération Foot. Les cadors n'ont pas déchanté. Coup double pour les Congolais qui auront deux représentants en phase de groupe. D'abord avec le tout-puissant Mazembe, sans pitié devant Fosa de Madagascar, battu 3-1 à Lubumbashi. Satisfaction pour le coach des Corbeaux, Pamphile Miayo.
Personnellement, je suis satisfait, je suis content du résultat et de la prestation de mon équipe parce que tout le monde doit savoir qu'un match de football, c'est de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Donc il ne faut pas toujours avoir confiance en son équipe quand elle mène déjà dès la première période. Donc il faut toujours avoir confiance durant toute la partie, surtout être posé pour pouvoir redonner cette même confiance aux joueurs.
C'était donc Pamphile Miayo, coach du tout-puissant Mazembe. Qualification également pour l'AS Vita Club, bousculé à domicile par le club togolais de l'ASK, mais finalement victorieuse 1-0. On écoute Florent Ibengué.
Merci déjà de souligner qu'on ne prend pas de but. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais vous avez quand même vu qu'à chaque match, on se procure quand même des possibilités de marquer des buts. Donc c'est intéressant. Et l'adversaire n'a pas beaucoup de possibilités de marquer. Mais ce que vous soulignez aussi, c'est que c'est que notre 7e match avec une équipe qui est complètement remaniée. Et donc aujourd'hui, avec cette équipe-là, se retrouver en phase de poule, je vous assure que je suis très heureux. La manière, elle laisse peut-être à désirer, mais je suis vraiment satisfait par rapport à ce groupe qui est très jeune.
Florent Ibengué, coach du tout-puissant Mazembe, en face, les Togolais pointent du doigt l'arbitrage.
Je vous avais dit qu'on va jouer pleinement notre chance, on va jouer notre football. Et c'est pas moi qui va vous le dire. Vous avez vu le jeu qu'on a produit, mais je suis désolé parce que l'arbitrage de ce côté, c'est pas comme ça. Ils ciblent un penalty imaginaire. Ils doivent faire la part de la chose pour que le football africain puisse avancer au moins. Nous, on ne regrette rien. Malgré tout, on prend sportivement.
Et donc, c'est toujours la meilleure manière de faire, prendre sportivement. C'était Kassim Gouyazou, coach de l'ASC Kara du Togo. Mamelodi Sundowns a établi un nouveau record dans la compétition, victoire 11-1, pardon, devant les modestes Seychellois de Côte d'Or, dominés 5-0 à l'aller. Alors, Jules, je commence par vous. On se demande comment des Seychellois ont pu atteindre ce niveau de la compétition pour encaisser autant de buts. Jules, vous m'entendez? On va essayer de reprendre Jules Valentin Ngoué, qu'on a du mal à joindre. Et donc, en attendant également, grosse déception pour les Ghanéens de la Santé Côte d'Or, remontés par les Tunisiens de l'Étoile du Sahel 3-0, alors que ces derniers avaient perdu 2-0 à l'aller au Ghana. L'autre club tunisien, champion en titre, l'Espérance de Tunis, s'est repris devant Electa Sport du Tchad 2-1. L'Algérie place aussi deux clubs en phase de groupe, déjà vainqueur au match aller 4-1. L'USM Alger a remis ça contre Gor Mahia, battu 2-0. Le Oroya de Guinée, donc de la Conakry, doit s'arrêter là. La JS Kabylie s'est qualifiée dans les tirs au but après la remontée du club guinéen. Alors, Élisée, Oroya avait pourtant fait l'essentiel et le plus difficile d'ailleurs en revenant au score 2-2 après les deux buts encaissés à l'aller.
Bien évidemment, et c'était une très grande formation du club de Matam qu'on a vu hier. J'ai suivi le match en direct. C'était une très grande formation qui a dominé de bout en bout cette explication, mais c'était sans compter sur la maladresse des attaquants de but. C'est vrai que le Burkinabé Aristide Bangsé a marqué un but, mais il aurait pu marquer jusqu'à 3 buts dans cette explication. Les Algériens étaient dépassés, mais contre toute entente, bien, le gardien de but était bien sûr présent, il était dans le match et l'a prouvé. Lors des séances des tirs au but, les Guinéens peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Et d'ailleurs, après le match, ils étaient tous couchés sur la pelouse du stade de Conakry. C'était une grande déception. Auroya, qui était quart de finaliste la saison écoulée, vient de se faire éliminer par cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, c'est vrai, qui a un nom sur le continent, mais c'était à voir la physionomie de la rencontre. Les Guinéens méritaient de se passer cette étape. C'était une grosse déception, surtout, l'entraîneur l'a dit juste après le match, on aurait pu concrétiser toutes les actions, toutes les occasions, j'allais dire, excusez-moi, mais c'était sans compter sur la maladresse des attaquants. Moussa Camara était aussi dans ce match, de même que Nabil Sadou. C'est les deux joueurs très en vue lors de la soirée d'hier, mais voilà, je l'ai dit tantôt, le gardien de but de la JS Kabylie, dont le nom échappe, a montré très grand chose. Daroussa, désormais, pourra se contenter du tout de cadrage pour essayer de se qualifier pour la Coupe de la Confédération.
Merci, Élisée Mkwatine. Deux clubs également pour le Maroc. Le Raja de Casablanca a concédé le match nul 1-1 devant Al Nassr, mais passe tout de même. De quoi susciter un sentiment mitigé chez le coach des Rajaouis, Patrice Carteron, que nous écoutons.
J'ai un sentiment mitigé ce soir. Je suis bien sûr satisfait qu'après autant d'années, le Raja soit de retour en phase de poule de Champions League. Par contre, je suis pas satisfait du tout de notre match. En termes de rythme, en termes d'intensité, en termes de qualité par rapport à ce qu'on peut faire, j'ai trouvé que l'entame a été correcte et le reste du match a été très pauvre. On a trouvé le moyen de donner à cette équipe des occasions de but alors qu'ils n'étaient pas dangereux et en faisant des grosses erreurs.
C'était donc Patrice Carteron, coach du Raja de Casablanca. Il était au micro d'Amine Birou, qu'on va essayer de rejoindre tout à l'heure. Alors, carton plein également pour l'autre club de Casa, le Wydad, qui a éclaboussé le Noix d'Hibou, 4-1. Alors, je me retourne vers vous, Jules. Je le disais, c'est passé pour deux clubs congolais en Ligue des Champions, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Il fallait s'y attendre.
Mais bien sûr, et généralement, à ce niveau de la compétition, l'expérience compte beaucoup parce qu'on commence déjà, en quelque sorte, à ressortir les équipes qui seront qui marqueront la fin de la compétition et qui seront prétendantes. Donc, des équipes expérimentées comme Vita, comme le tout-puissant Mazembe, et ne peuvent pas laisser de telles occasions, surtout quand ils ont affaire à une adversité un peu moins huppée.
Alors, Amine Birouk est avec nous. Il est relais, en tout cas, disons. Alors, Amine, on écoutait Patrice Carteron tout à l'heure qui parlait de sentiments mitigés. Et le Maroc, qui a fait carton plein en Ligue des Champions avec le Raja et le Wydad, tous de Casablanca. Dites-nous, Patrice Carteron n'est pas content, mais quand même l'essentiel est là pour les Marocains qui font du 2-2.
Il y a le fond et la forme. Si on devait s'en tenir, Yacouba, au fond, le Raja de Casablanca a manqué la phase de groupe de la Ligue des Champions depuis l'année 2011, donc c'est un retour après une absence de 8 ans. Le Raja n'a plus gagné ce titre depuis 1999, donc il va faire partie des 16 meilleures équipes africaines et donc aspirer à retrouver ce sésame qui le fuit depuis 1999. Maintenant, si l'on s'en tient à la façon de jouer du Raja de Casablanca et aux résultats, il y a quand même quelques interrogations à poser concernant l'état de motivation, de fraîcheur des troupes. Ils avaient gagné au Caire il y a une quinzaine de jours 3-1 face à ce même adversaire. Ils ont aligné la meilleure équipe possible et visiblement, après avoir pris l'avantage au score à la 12e minute de jeu, ils ont laissé quelque peu filer le match. Ils ont joué en dedans, concédant le but égalisateur et se mettant même en danger puisque les Libyens ont bénéficié d'un pénalty qui a été arrêté par le gardien de but Anes Viti à 1-2. en faveur des Libyens. On ne donnait pas cher de l'équipe du Raja qui s'est laissé quelque peu aller. Il y a eu donc un manque d'intensité, un manque d'efficacité, d'application. C'est un peu la copie conforme du match qu'ils ont disputé quelques jours plus tôt en Coupe arabe où ils ont gagné petitement face aux champions de la Palestine 1-0. Et donc voilà, Patrice Carteron a raison de sonner l'alarme et de remettre ses joueurs sur le bon chemin. Il va falloir un peu plus d'implication, d'intensité dans le jeu, car la technique, la qualité individuelle est indéniable, mais quand on ne travaille pas, quand on ne cherche pas à récupérer le ballon, à quoi ça sert d'avoir les meilleurs techniciens possibles? Aujourd'hui, les joueurs du Raja sont avisés parce qu'ils vont monter d'un cran dans la phase de groupe de la Champions League.
L'Angola aura aussi deux clubs à cette phase de groupe-là de la Champions League. Il s'agit du Primeiro do Agosto, tombeur des Zambiens de Green Eagles et de Petro Atlético qui a écarté les Ougandais de Kampala Sissié. Sont aussi qualifiés les Zimbabwens de Platinum, les Zambiens de Zesco United et les Soudanais d'Al Hilal. C'est aussi passé pour les Égyptiens d'Al Ahly 4-0 contre Kano Sport. Pour l'instant, le Zamalek peut savourer en attendant une décision de la CAF. Son match contre Génération Foot n'a pas été disputé. Alors Amdine, expliquez-nous tout ce qui s'est passé.
En fait, il s'est passé un problème de programmation puisque l'équipe de Génération Foot qui a battu quand même cette équipe de Zamalek lors de la première match joué à Thiès, le score de 2-1, s'est rendu quand même au Caire le mardi parce que le match a été programmé le samedi dans l'après-midi. Mais le vendredi à 13h32, les responsables de Génération Foot ont reçu un courrier de la part de la CAF, un courrier signé par le secrétaire général adjoint de la CAF, l'ancien footballeur ghanéen Anthony Bafoué, disant que le match non seulement a été délocalisé, puisque au lieu du Caire, le match va se jouer à Alexandrie, mais aussi au lieu du samedi, le match va se jouer dimanche. Bon, les responsables de Génération Foot ont apprécié cette situation et ils ont quand même interrogé le règlement. En interrogeant le règlement, ils se sont rendus compte que ce soit le Zamalek ou la CAF, ils n'avaient pas quand même le droit de délocaliser ce match à 48 heures. Puisque si on regarde le règlement, on dit que le match, l'heure du coup d'envoi, le jour du match et le lieu du match doivent être communiqués à l'équipe adverse, aux arbitres et aux commissaires du match, 14 jours au moins. Donc les responsables de Génération Foot se sont basés sur ça pour dire qu'ils ne vont pas effectuer le déplacement. Et le vendredi dans l'après-midi, ils se sont rendus au stade, au terrain du match pour s'entraîner. On les a refusé l'accès du stade. Le lendemain, ils sont venus à l'heure du match avec un avocat qui a constaté. Entre-temps, ils ont saisi la Fédération sénégalaise de football et de président parce que pour se déplacer du Caire à Alexandrie, le règlement dit si c'est plus de 200 km, il faut voyager en avion pris en charge par les pays hôtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'équipe de Génération Foot devait rentrer le dimanche à 8h le matin. Donc, fort de tout cela, ils ont écrit à la CAF, la fédération a écrit à la CAF pour dire qu'ils vont respecter le règlement. Le Zamalek et la CAF n'ont qu'à respecter le règlement. Maintenant, on va vers une bataille juridique, Yacouba.
Donc, Amine, je me retourne vers vous. Une fois de plus, c'est une bataille juridique au niveau de l'institution fêtière du football africain. Qu'est-ce qu'il faut et à quoi on pourrait s'attendre côté texte?
Sur le plan des textes, il va falloir se pencher sur la décision puisque la commission de discipline de la Confédération africaine de football va se réunir et on verra dans quelle mesure le club sénégalais a raison. Maintenant, il y a des faits qui pourraient faire pencher la balance en faveur du club sénégalais. C'est le fait que les raisons de sécurité qui ont été invoquées pour délocaliser le match du Caire Alexandrie, c'est qu'au même moment, il y a eu deux matchs du championnat égyptien qui se sont déroulés à huis clos. Donc d'une façon ou d'une autre, on pouvait s'en tenir à la décision initiale, c'est-à-dire jouer la rencontre au stade de Petrosport sans supporters. Le président du Zamalek a fait pression, la Fédération égyptienne de football a fait pression. On se rappelle juste deux choses qui sont importantes. Aujourd'hui, la CAF est sous tutelle. C'est la Sénégalaise Fatma Samoura qui la gère. Et parmi les missions dont elle doit s'acquitter, c'est la modernisation et le suivi des compétitions, des clubs et des compétitions des nations. Outre le volet financier administratif et celui du développement du football à la base. Donc il va falloir quand même que les dirigeants de la CAS soient vigilants parce qu'ils sont surveillés. Elle est sénégalaise, mais elle est super parfaite. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le siège de la CAS est en Égypte. Donc il y aura des tiraillements. Il va falloir juste appliquer les règlements, appliquer la loi. Et si visiblement, et cela semble être la position des Sénégalais, ils refuseraient de disputer le match si la CAF stipule qu'il doit être joué au Caire ou à Alexandrie, il va falloir maintenant voir si la TAS ou le TAS va encore se saisir. Et on se demande si un jour ou l'autre, dans les prochaines semaines, le TAS ne va pas créer un département CAF, tant les affaires vont s'accumuler parce qu'il y a des tests qui sont mal ficelés ou une application des tests qui n'est pas rigoureuse ou des dirigeants qui ne sont pas très regardants.
Alors, Jules Amine l'évoquait tout à l'heure, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, assure actuellement la tutelle de la CAF. Il y a d'un autre côté le siège de la CAF justement qui se trouve en Égypte. Est-ce qu'on pourrait penser que les tiraillements aient raison sur le droit?
Non, mais il faut dire que le navire est ivre. Le navire est ivre, que nous traversons une période chaotique au niveau du football africain, au niveau du sommet du football africain. Et là, il est fort possible que les personnalités qui sont à ce niveau-là tirent la couverture les uns et les autres. Bon, donc, tout ce qu'il faut faire, c'est peut-être et donner un peu plus d'importance à l'analyse des techniciens qui vont se réunir et lire les textes clairement et les appliquer tout simplement. En tout cas, le gérant intérimaire de la CAF ou alors la gérante intérimaire de la CAF qui est la secrétaire générale de la FIFA et a intérêt à ne pas se laisser embourber dans de telles situations. D'accord. En tout cas, on va voir ce que cela va donner.
On espère bien que le droit sera dit. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions aura lieu le 9 octobre au Caire. Et les éliminés de ce tour-là disputeront le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Nous parlons justement de cette coupe CAF. Le club sfaxien ne jouera pas le tour de cadrage après avoir été battu 3-1 en Algérie. Le triple vainqueur du trophée a été tenu en échec par Paradou. Il n'y aura donc pas de représentant tunisien cette année dans cette coupe de la CAF après l'élimination de l'US Ben Gerdan face au Kenya de Bandaré FC. En revanche, qualification pour les Égyptiens de Pyramide et ceux d'Al-Masri. Deux clubs marocains, la Renaissance Sportive de Berkane et le Hassania Agadir également. On écoute le coach du Hassania, Miguel Arel Gamondi.
On a joué un match difficile, un match typique de qualification. On a eu en face un adversaire qui c'était clair son plan, qu'il a venu à se garder derrière, essayer de récupérer le ballon, de jouer sur des contres rapides. Et on a fait une excellente première mi-temps. On a commencé à développer les jeux que Hassania il est habitué à développer. On a créé trois situations, on a manqué l'efficacité. Et deuxième période, on n'a pas bien sorti, surtout les premières 5-10 minutes, on a eu des imprécisions.
Des propos recueillis donc par Amine. Et comme en Ligue des Champions, le Maroc aura également deux représentants. Amine, je parle de vous, dont le finaliste l'an dernier en phase de poule de la Coupe CAF.
Et le finaliste qui était en gros danger après sa défaite face à Chantigol de 3-2. Certes, les Marocains avaient marqué deux buts, mais il faut oublier que les sanctions de la CAF étaient tombées il y a quelques semaines et ils étaient privés d'une de leurs pièces maîtresses, leur capitaine Nemsaoui, suspendu 4 matchs. Ils avaient aussi un nouvel entraîneur qui disputait son premier match officiel à la tête de l'équipe, donc il fallait voir dans quelle mesure la mayonnaise allait prendre. Et visiblement, la tâche a été facilitée par les Ghanéens et par l'arbitre qui a expulsé un des joueurs de l'équipe à Chantigol dès la 7e minute de jeu. 3-0 16e minute, carton jaune. 7e minute, visiblement, l'arbitre n'était pas véritablement content de l'attitude belliqueuse, agressive. Bon, ça laisse une marge de doute. Et cette équipe de Berkane a pris les choses en main avec un but d'Ayo Soufou et puis un autre de Zaid Krouch. Le but d'Ayo Soufou est un ciseau retourné magnifique. Mais la tâche a été facilitée par cette expulsion. 11 contre 10, le métier des Maghrébins ou des Marocains a prévalu. Et c'est une équipe de Berkane qui se qualifie pour le tour de cadrage. L'objectif minimal, c'est d'être dans la phase de groupe, tout comme pour le Hassani d'Agadir, qui a souffert beaucoup plus que prévu face à l'Ittihad libyen. 0-0, qualification en but marqué à l'extérieur. Il faudrait juste préciser que les clubs libyens ne disputent pas de championnat, qu'ils sont régulièrement en concentration en Tunisie et qu'ils se contentent de disputer des rencontres amicales. Le rythme de la compétition devrait leur manquer. Et pourtant, que ce soit le Raja de Casablanca en Ligue des Champions ou le Hassani d'Agadir en Coupe de la CAF, les deux clubs marocains qui ont beaucoup plus de matchs de compétition dans les jambes ont souffert lors de ces matchs retour face aux représentants de la Libye.
Le Djoliba du Mali s'en est tiré aussi 1-1 à Bamako après le 2-1 infligé à l'aller à Maranata. Georges Kouadjou, entraîneur des Djolibistes.
Vous voyez que c'est la joie dans le camp des Djolibistes. Même avoir fait nul à domicile, nous avons gagné à l'extérieur, nous sommes qualifiés. Les Djolibistes ont besoin de cette qualification depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous avons gagné une manche. Nous allons nous préparer pour le tour de cadrage qui n'est pas aussi facile, mais nous allons prendre match par match et Dieu fera. C'est fait dur parce que nous avons raté tant d'occasions. Mais ce qui n'a pas marché, c'est les attaquants.